Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles à la seconde lettre de Pierre, au chapitre 1er, les versets 1 à 11, et vous trouvez ce texte à la page 1387. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 11. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la persévérance la piété à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est la deuxième fois en quelques semaines que j'évoque cet événement, le 9 novembre 1989, il y a bientôt 30 ans, donc fait partie de ces dates qui ont marqué l'histoire moderne. La chute du mur de Berlin. Et ce jour-là, des gens qui ont été séparés pendant des décennies ont pu se retrouver. Le mur avait été érigé en 1961. Et le pays, lui, était divisé, donc près de 30 ans avant sa chute, et le pays, lui, était divisé depuis plus de 40 ans. Et d'un seul coup, avec cet événement, tout a changé en Allemagne. Ce dont tant de personnes rêvaient depuis des décennies, ou n'osaient même pas rêver, est devenu une réalité. Et beaucoup ont dit la même chose ce jour-là. Je ne pensais pas voir cela de mon vivant. Et en écrivant les lignes que j'ai lues tout à l'heure, l'apôtre à des chrétiens donc en Asie mineure, l'Asie mineure ça correspond à peu près à la Turquie d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre veut transmettre à ses lecteurs un sentiment un petit peu semblable. Il veut qu'ils comprennent qu'ils vivent quelque chose d'unique, quelque chose dont la dimension est encore bien plus considérable que la chute du mur de Berlin. Une véritable nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. La venue de Jésus-Christ dans le monde, sa vie, son ministère, sa mort sur la croix, sa résurrection, eh bien ce sont des interventions décisives de Dieu par lesquelles il est venu écrire une nouvelle histoire de l'humanité. Une nouvelle histoire fondée sur son pardon et sur une relation vivante et personnelle avec lui. Alors Pierre écrit cette seconde lettre alors qu'il sait être arrivé bientôt à la fin de sa vie. On a pas mal d'indices qu'on est à la fin de la vie de Pierre et c'est donc en quelque sorte le testament qu'il laisse aux chrétiens de son temps. Et il veut que ses lecteurs comprennent bien que s'ils sont venus à la foi en Jésus, tout a changé, rien ne sera comme avant. Dans le texte que j'ai lu il y a quelques instants, il y a cette idée centrale qui ressort et qu'on pourrait résumer par la phrase suivante « Vous avez tout reçu ». Et donc vous pouvez tout donner. Vous avez tout reçu, donc vous pouvez tout donner. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là, à la lumière du texte, et on va le faire donc en deux temps. Et ça suit simplement la phrase que je viens de dire, nous avons tout reçu, et nous pouvons tout donner. D'abord donc, nous avons tout reçu. Alors certains auront entendu déjà cette anecdote que j'ai racontée à l'une ou l'autre occasion. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis retrouvé seul dans une ville où je ne connaissais personne. Alors, il n'y avait rien de dramatique, je vous rassure, mais c'est un concours de circonstances. Je ne connaissais personne dans cette ville, sinon des amis de longue date de mes parents, que moi-même je ne connaissais pas très bien. Et le lendemain matin, j'avais un avion à prendre très tôt, mais suite à un imprévu, justement, il me fallait trouver un endroit où passer la nuit. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé ces gens en leur demandant si, par hasard, ils avaient peut-être un canapé dans leur salon où je pouvais dormir quelques heures avant de partir prendre un taxi pour aller aux aurores à l'aéroport. Eh bien, non seulement ces amis de mes parents donc, ont accepté de m'accueillir, mais ils l'ont fait à bras ouverts. Ils m'ont préparé la chambre d'amis, ils m'ont servi un dîner, ils se sont levés pour me faire le café le matin et ils ont insisté pour m'amener à l'aéroport alors qu'il fallait partir très tôt. Et j'y croyais à peine et je me souviens m'être dit, c'est ça la grâce. Cette bonté qui surabonde, cette belle surprise qui change la donne alors qu'on n'a aucune raison de s'y attendre et qu'on ne le mérite pas. À une toute autre échelle, Pierre veut que ses lecteurs saisissent bien la grâce qui leur a été accordée et l'ampleur du privilège que cela représente. Et à la fin de sa salutation, au verset 2, il exprime déjà son vœu que la grâce et la paix soient multipliées pour ses lecteurs. Alors on peut se dire que c'est juste une formule comme ça, que les auteurs du Nouveau Testament aimaient bien, mais ça a du poids, ça a tout son sens, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Or, quelle est la source de cette grâce et de cette paix? Quelle est la source de cette nouvelle manière de vivre? Eh bien, la réponse, on la trouve à la fin du même verset 2, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Pierre rappelle à ses lecteurs qu'en confiant leur vie à Jésus-Christ, ils ont été invités à vivre une relation intime et personnelle avec Dieu lui-même. Or, cette connaissance de Dieu, pour Pierre, elle est comme une porte ouverte vers une vie transformée, dans laquelle nous avons tout reçu, tout ce qu'il y a d'essentiel. Et si on regarde le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en gros à la vie avec Dieu. Autrement dit, Dieu nous a parfaitement équipés pour la vie qu'il nous appelle à vivre. Dieu nous a parfaitement équipés pour la vie qu'il nous appelle à vivre. C'est intéressant de voir que Pierre parle ici au passé. Plus loin dans sa lettre, il va évoquer l'avenir magnifique qui attend ceux qui ont confié leur vie à Jésus. Mais ici, il nous parle d'une réalité qui a déjà commencé, si on a placé sa confiance en Christ. Si nous l'avons fait, si nous avons cru en Jésus, Dieu nous a donné, avec puissance, précise-t-il, tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous croyons cela? Alors bien sûr, Pierre ne conteste pas ici les divers besoins de notre quotidien qui ne sont pas toujours pleinement satisfaits. La Bible est claire sur le fait que dans la vie présente, nous vivons encore des souffrances, des frustrations, des déceptions. Et d'ailleurs, Pierre en parle largement dans sa première lettre. Mais ici, il veut que ses lecteurs comprennent que Dieu leur a déjà donné ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de plus important et qui, en fait, donne du sens à tout le reste, et même aux souffrances, et même aux frustrations et aux déceptions. Et il poursuit dans la même veine au verset 4, celles-ci, nous assurent les plus grandes et les plus précieuses, pas les promesses, mais toutes ces choses que Dieu nous a données, elles nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et à la fin du même verset 4, il va jusqu'à dire que ces promesses nous permettent de devenir participants à la nature divine. Alors là, certains peuvent se demander si Pierre pousse le bouchon un peu loin quand même. Participant à la nature divine. Cette expression a donné lieu à pas mal de débats, d'interprétations souvent regrettables. Mais le mot traduit ici par participant peut avoir le sens d'associer à, en communion avec. Et dans le contexte, c'est clairement ce sens qui convient. Pierre ne dit pas que les chrétiens seraient comme mystiquement divinisés, mais comme l'écrivent par ailleurs les apôtres Paul et Jean, il affirme que en entrant dans cette relation avec Dieu, nous sommes comme introduits dans l'intimité de Dieu. Nous entrons en communion avec la divinité. Introduits en quelque sorte dans la cour céleste. Est-ce qu'on saisit bien la force incroyable de cette affirmation? Si un jour vous vous présentez devant le palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, que vous vous présentez aux gardes et que vous dites « Excusez-moi, est-ce que ce serait possible de discuter un peu avec le président Macron ? » J'aimerais bien, j'ai des choses à lui dire et vous pouvez toujours rêver, ça n'arrivera jamais. On ne se présente pas comme ça et c'est normal, dans un sens. On ne se présente pas comme ça pour voir le président. Mais Pierre nous dit ici que par Jésus-Christ, nous avons une invitation permanente, éternelle même, à entrer dans la présence même de Dieu, le Tout-Puissant. On ne peut pas imaginer privilège plus grand que cela. Et si Pierre insiste sur ce point ici, c'est d'une part parce qu'il est émerveillé par ce que Dieu a fait, mais aussi parce que, comme il le précisera plus loin dans sa lettre, au chapitre 2, de prétendus prophètes s'étaient immiscés dans les églises et ils prétendaient apporter de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations. Et l'apôtre Pierre veut que ses lecteurs comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'affût de nouvelles expériences ou de nouvelles révélations, parce qu'ils ont déjà reçu l'essentiel. Jésus-Christ les invite à entrer dans l'intimité de Dieu, à être liés au Créateur pour toujours, à vivre une vie transformée par sa grâce. Comment pourrions-nous ne pas être satisfaits par cela? Et ce message est très pertinent pour nous aujourd'hui. D'abord parce que le monde nous propose 10 000 ambitions autres que la connaissance de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre elles sont attrayantes. Ambitions professionnelles, sociales, financières, familiales, sportives, etc., etc. Généralement, elles ne sont pas mauvaises en tant que telles. Mais souvent, et elles peuvent même être parfois bonnes, mais souvent derrière un visage attrayant se cache, comme Pierre l'écrit à la fin du verset 4, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Des idoles qui suscitent l'envie, mais qui en fait ne pourront jamais satisfaire, mais qui par contre nous rendent insatisfaits. Et Pierre veut qu'on comprenne que nous avons reçu quelque chose d'infiniment plus précieux que tous ces faux semblants. Mais ce texte est pertinent pour nous aussi parce que même dans les églises se diffuse parfois cette idée qu'il faut sans cesse rechercher de nouvelles expériences, de nouvelles révélations en tout genre. Or, Pierre le martèle à 3 reprises dans ce texte. Ce qui compte, ce qui est essentiel pour la vie avec Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Verset 2, verset 3, verset 8, la connaissance de Jésus. Dieu nous a fait la grâce de connaître son Fils, celui qui nous a donné comme Seigneur et comme Sauveur. Voilà ce qui doit retenir notre attention. Voilà ce qui doit combler notre cœur. Et nous allons voir maintenant que pour Pierre, cette grâce illimitée que Dieu nous offre, elle n'est pas une excuse pour l'inaction ou pour la paresse spirituelle, mais bien au contraire, elle nous mobilise entièrement pour vivre une vie transformée. Nous avons tout reçu et donc nous pouvons tout donner. Dans son premier discours, alors qu'il venait d'accéder au pouvoir dans le Royaume-Uni en guerre, Winston Churchill a eu cette très célèbre phrase « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. » Du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. Je me demande ce que diraient nos spécialistes modernes de la communication à propos de ce slogan. Démoralisant, contre-productif, déprimant, il faut insister sur le positif, pas sur le négatif, etc. On entend rarement des hommes et des femmes politiques aujourd'hui nous promettre du sang et des larmes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et pourtant, on se souvient de ce discours comme l'un des plus grands du XXe siècle et peut-être même de l'histoire. Comment expliquer qu'un discours en apparence aussi dur ait pu autant frapper les esprits et galvaniser un peuple? Et je pense que la réponse, c'est que l'être humain est prêt à souffrir s'il est convaincu que cette souffrance est nécessaire pour atteindre un bien supérieur ou pour être délivré d'un mal. Et pour les Britanniques capitulés face aux nazis, c'était pire que de souffrir en défendant son pays. Et par conséquent, la fameuse phrase de Churchill, elle n'a pas été démoralisante, mais elle a plutôt permis une prise de conscience de la gravité de l'enjeu, du fait qu'il fallait tout donner pour parvenir au bien supérieur, au bien souhaité. Au verset 5 de notre texte, il y a une transition qui peut surprendre. Pierre vient de souligner qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Alors on pourrait penser que maintenant c'est bon, il suffit de baigner paisiblement dans une telle bénédiction et de profiter de ce que Dieu nous a offert. Et pourtant, à partir du verset 5, il est question d'efforts, et même de durs efforts. Or Pierre, précisément, fait le lien entre la grâce reçue et les efforts demandés. Verset 5, « Pour cette raison même, parce que vous avez reçu tout ça, faites tous vos efforts, afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Tout un programme. Pierre invite ses lecteurs à tout donner, au sens de réorienter entièrement leur vie pour cultiver avec effort des qualités nouvelles. On n'aime pas forcément entendre ce genre de choses. Comment comprendre qu'il faille faire des efforts dans notre relation avec Dieu, alors que, en plus, Pierre vient de nous dire que nous avons tout reçu? Eh bien, la réponse, elle est au verset 8. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on prend conscience de quelque chose de fondamental. La connaissance de Jésus, ce n'est pas un état fixe. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Point final. La connaissance de Jésus, ça se cultive, ça se travaille même. Si nos relations humaines les plus proches se travaillent, je pense qu'on peut le confirmer, toute relation humaine se travaille, eh bien, à combien plus forte raison la relation avec le Dieu vivant? Or, connaître Jésus, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas juste savoir qui il est. Et en fait, la confusion entre savoir quelque chose sur quelqu'un et vraiment connaître cette personne, elle est entretenue plus que jamais à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. On peut penser qu'on connaît quelqu'un parce qu'on a plein d'informations sur lui ou elle. On voit régulièrement ses photos, on connaît ses opinions sur plein de choses. Mais en fait, on n'a aucune relation avec cette personne. Et de même, on peut penser que la vie chrétienne, c'est le fait d'adhérer à Jésus, d'approuver de loin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître Jésus de loin. On ne peut pas le connaître véritablement sans que ça nous transforme. Entrer dans une véritable relation avec Jésus, c'est entrer dans un processus qui va profondément changer notre regard sur le monde et sur la vie, qui va réaligner nos priorités, qui va bouleverser notre vie. Et c'est ce que Pierre souligne ici. La connaissance de Jésus demande des efforts. On note que les qualités que Pierre évoque au verset 5 à 7 ne sont pas spectaculaires. Ce sont des qualités qui prennent forme avec le temps, qui demandent du travail, de l'endurance. Ce sont des qualités qui témoignent chacune de leur manière, d'une intimité grandissante avec Jésus, lui qui a parfaitement incarné tout cela. Plusieurs commentateurs soulignent que dans sa manière de formuler les choses, Pierre sous-entend une gradation, un cercle vertueux, un processus par lequel en fait chaque qualité nourrit l'autre, nourrit la suivante. Donc plus on a de foi, plus ça s'exprime par des qualités morales. Et à son tour, ça donne lieu à de la connaissance. Et la connaissance elle-même va susciter la maîtrise de soi, etc. Dieu ne nous donne pas une liste écrasante de choses à faire, en disant « voilà tout le programme de ce que vous devez faire », mais plutôt il nous invite à entrer dans une dynamique et à réorienter notre vie pour chercher à le connaître de mieux en mieux. On sait par expérience que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à la manière de vivre et de penser de cette personne. Et si c'est quelqu'un dont on est vraiment proche, on va même se laisser influencer et changer par ses valeurs et ses goûts. Quand on aime Jésus, on se laisse changer par ses valeurs. À combien plus forte raison. Et lorsque ce n'est pas le cas, alors, écrit Pierre au verset 9, c'est peut-être qu'on a oublié ce qu'il a fait pour nous. Et les mots sont sévères. Celui qui ne possède pas ces qualités est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Plaise à Dieu si c'est le cas, que ça ne soit pas un état définitif, mais c'est un risque. Mais Pierre n'écrit pas ces lignes pour qu'on soit découragé. Rappelons d'abord que pour lui, toutes ces qualités sont des moyens de mieux connaître Jésus, et c'est ça dont nous avons le plus besoin, et ça devrait nous enthousiasmer et nous réjouir. Un jeune homme transi d'amour sera heureux de faire de grands efforts pour sa fiancée. S'il faut faire des kilomètres, s'il faut passer des heures au téléphone, il le fera avec joie. Parce que sa relation avec sa fiancée lui est tellement précieuse. Il aura sans doute plus de mal à faire ses efforts pour son oncle ou pour un voisin, ou a fortiori une vague connaissance. La question clé n'est pas de savoir quels efforts nous sommes prêts à fournir, mais plutôt la valeur que nous accordons à la relation avec Jésus. Et c'est pour ça que si en écoutant ce texte, vous vous sentez remis en question par la parole de Dieu, comme j'ai pu l'être moi-même en travaillant ce message, le premier réflexe n'est pas de se dire « Oh là là, il faut que je trouve le moyen d'avoir plus de foi, de qualité morale, de persévérance. Il faut que je trouve la force en moi. » Non, la première question que je dois me poser est la suivante. Est-ce que je désire mieux connaître Jésus-Christ? Et si on avait des doutes sur ce qui est en jeu ici, Pierre le rappelle au verset 12 et 10 et 11. Et il boucle la boucle avec le début du texte. Il rappelle l'incroyable privilège du disciple de Jésus. Il a été appelé et choisi, verset 10. Ce qui lui est promis, c'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, verset 11. Entrer dans le royaume en ce jour où cette vie nouvelle, qui a déjà commencé, trouvera son plein accomplissement. Dans un monde entièrement renouvelé, Pierre en parlera au chapitre 3 de cette lettre. Un monde et une vie définitivement réconciliés avec Dieu. Et donc, faire des efforts pour vivre autrement, ce n'est pas s'épuiser par stoïcisme ou par devoir religieux, mais c'est plutôt affermir l'appel et le choix dont nous avons été l'objet, verset 10. C'est grandir chaque jour dans la relation la plus magnifique qui soit. Nous avons tout reçu, nous pouvons tout donner. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Merci parce que en Jésus-Christ, nous avons reçu tout ce qui est essentiel. Accorde-nous, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir grandir dans cette connaissance de notre Seigneur et Sauveur. De pouvoir nous laisser changer par la méditation régulière de ta parole, par une attention, par une priorité accordée à notre vie de prière, à notre vie de communion et d'intimité avec toi. Seigneur, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Donne-nous de revenir sans cesse à cette source de tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie que tu nous appelles à vivre. Et Seigneur, si nous nous sommes éloignés à petite échelle, voire à grande échelle, pour certains peut-être, donne-nous de revenir, de ne pas oublier de ce que tu as fait à la croix pour nous, de ne pas perdre cela de vue, mais au contraire de revenir à l'essentiel. Donne-nous la grâce de pouvoir, en méditant par exemple ces qualités que Pierre préconise dans ce texte, de pouvoir revenir, nous refaire une santé spirituelle, non pas par nos propres forces, mais par ces ressources que toi-même tu nous offres en Christ et par l'Esprit Saint. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.